Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et l'invité politique de la matinale, c'est Tiphaine Siré, porte-parole de l'Union démocratique bretonne. Bonjour.
Bonjour.
Première question, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec évidemment cette secousse, cette situation politique avec ce budget qui doit être voté notamment au maximum le 31 décembre. Je voulais déjà avoir votre première réaction sur ce qui nous arrive. Est-ce que cette situation politique nous dépasse ?
Alors elle ne nous dépasse pas, mais elle est le symptôme de quelque chose de plus profond qu'on voit depuis plusieurs années maintenant et qui donne un peu raison à des partis comme l'UDB sur la fin de la Ve République, sur la fin d'une République beaucoup trop centralisée où on voit bien justement qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc nous, le projet politique qu'on porte et qui trouve écho maintenant auprès d'autres partis politiques, et c'est heureux, c'est la question effectivement d'une plus grande décentralisation, d'une République pourquoi pas fédérale, c'est-à-dire qui est beaucoup plus tournée sur les territoires. Et c'est un peu ce que les chiffres que donnait le sondage IFOP de cet été, commandité par Région et Peuple Solidaire, justement, qui permettait et qui montrait bien que dans l'esprit collectif des citoyens, il y a cette volonté de changement, changement démocratique, certes, républicain aussi, donc avec d'autres propositions qui soient plus proches des territoires.
On va en parler justement de ce sondage IFOP que vous évoquiez. Je parlais notamment de cette situation politique, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui veut évidemment réformer au pas de charge, qui veut faire passer absolument tous ses textes et toutes ses propositions. On a un échiquier politique qui a du mal à se parler, on a la droite qui a du mal à s'unir, la gauche qui a quelques divergences notamment avec le Parti Socialiste. Certains parlent même d'une potentielle dissolution qui pourrait en quelque sorte rebattre les cartes de l'échiquier politique. Est-ce que vous êtes favorable notamment à une dissolution ?
Alors ça dépend comment, pourquoi et à quelle période aussi. Et effectivement, on a tous conscience de la montée de l'extrême droite, du danger que ça pourra être justement si dissolution il y a. Et pourtant, à l'Union démocratique bretonne, nous sommes prêts pour cette dissolution. On a déjà travaillé sur notre programme, on a travaillé sur nos candidats dans toutes les circonscriptions de Bretagne à 5. Donc de ce point de vue-là, on est prêts, nous, à faire barrage à l'extrême droite et à montrer que d'autres projets sont possibles pour la France, pas uniquement pour la région Bretagne, évidemment. Donc oui, nous, on est prêts. Et si dissolution il y a, alors on sera présent.
Vous dites on est prêt, mais je me rappelle, je me suis un peu replongé dans vos interviews précédentes. Vous disiez notamment que la dissolution a eu un impact financier important pour nous. Comment vous pouvez expliquer justement ce changement justement de discours, d'idées ? Comment ça se fait que maintenant vous dites que vous êtes prête alors que vous disiez que la dissolution a eu un coût important ?
Parce que pour rappel, quand la dissolution est arrivée, effectivement, il y a eu une demande forte du NFP, justement, d'un outil commun. Et effectivement, on a rejoint cet appel-là, justement parce que la demande qui était faite de la gauche était justement de faire front commun. Dont acte, nous avons fait front commun à ce moment-là. Mais il est vrai, et c'est important de le rappeler, que cette élection, elle permet aussi le pluralisme démocratique, puisque c'est l'élection qui permet le financement public des partis. Et c'est à ce titre-là qu'on a beaucoup perdu, puisque en faisant cause commune et front commun, effectivement, on a engagé le parti dans de grandes difficultés, certes financières, mais aussi politiques, en étant invisibilisé. Là, l'idée, c'est que compte tenu de la séquence qui se joue, et aussi de la demande, et je vais revenir un peu dessus, mais Sébastien Lecornu, numéro 1, sur le premier gouvernement, avait fait envoyer une lettre aux collectivités justement sur des propositions, des demandes de propositions pour une plus grande décentralisation. Donc on sait que sur nos propositions à nous, on a un boulevard là qui se joue sur lequel on ne veut pas passer. Parce qu'on sait très bien qu'on porte des idées qui sont en cohérence avec une plus grande décentralisation et aussi avec une demande sociétale beaucoup plus forte. Et c'est à ce titre-là qu'on souhaite être présent.
Nous avons joué le jeu de la solidarité avec le nouveau Front Populaire sans forcément retrouver nos billes. C'est ce que vous déclariez notamment lorsqu'il y a eu cette première dissolution. Est-ce qu'en cas de dissolution, et donc potentielle législative, est-ce que vous changerez de stratégie par rapport à 2024 ou vous resterez sur la même ligne ?
Là, ce sera en fonction aussi du contexte, de comment les autres partis se comportent, comment on arrive ou non à trouver un front commun encore une fois. Donc tout est encore ouvert de notre côté, c'est juste qu'on se tient prêt à toutes les possibilités.
On va parler d'autres sujets, on va parler de la question de l'identité bretonne, du sentiment d'appartenance, on va parler également de la Bretagne à 5 départements, vous en parliez un petit peu au début de cette interview. Mais d'abord, depuis plusieurs années, la question de l'identité bretonne, elle est revenue au cœur du débat public entre affirmation culturelle, revendication politique, reposition territoriale dans un contexte où les Français, ils expriment en quelque sorte un sentiment de reconnaissance et de proximité de leur territoire. Pour ce qui concerne la Bretagne, lors de l'université d'été du parti Région et Peuple Solidaire, vous l'avez vu notamment, qui s'est déroulé il y a quelques mois, vous avez commenté ce sondage IFOP dans lequel 71% des Français souhaitent plus de pouvoir pour les régions. En Bretagne, près d'un habitant sur deux se dit d'abord attaché à sa région, avant même la France. Vous aviez déclaré, on peut se sentir français et breton en même temps. Ça veut dire quoi concrètement, se sentir français et breton en même temps ?
Là, je ne pourrais pas répondre au nom de tout le monde puisque c'est très individuel et très intimiste comme question. Et en même temps, c'est un projet collectif. C'est-à-dire que les identités qu'on peut tous porter, elles s'accumulent, elles s'additionnent. C'est jamais une question de division. On n'est pas obligé de choisir. On peut être plein de choses en même temps. Je suis de culture féministe, mais je suis aussi de culture bretonne. Je suis en partie d'origine tzigane. Donc finalement, je porte aussi en moi plein d'une pluralité finalement de cultures qui s'entrechoquent peut-être parfois, mais qui se complètent. Donc quand on dit on peut être français et breton, oui, on peut être les deux. C'est un choix, c'est un ressenti personnel, mais aussi collectif, puisque le peuple breton en tant que peuple existe, et c'est difficile parfois de l'admettre, ou en tout cas de le mettre en exergue. Nous, on le fait, puisqu'on estime, comme on fait partie d'une fédération aussi au niveau européen, l'ALE, que l'autodétermination des peuples est une condition aussi d'émancipation, et c'est ça que nous, on met en avant. Donc oui, on peut être les deux, on peut être même plus que ça, si on le souhaite. C'est une fois, comme je le disais, une question individuelle, mais aussi collective, parce que ce qui est important, c'est le bien commun. Donc c'est ce qu'on arrive à créer ensemble, au niveau à la fois culturel et de l'identité.
Est-ce que vous pensez justement que cette double appartenance, elle est mieux comprise au niveau national ?
En tout cas, dans la population générale, oui. Que les institutions le comprennent, là, c'est plus délicat. On voit bien que tout est sclérosé, tout est centralisé à Paris. Donc la question de la culture ou des cultures en France, elle est complexe. Ne serait-ce que, par exemple, le musée de Villers-Cotterêts sur la question de la langue française, qui certes fait un peu de place aux langues régionales, mais pas tant. Cette question finalement de l'identité en sens très large, ou des identités au pluriel, elle rentre aussi parfois en contradiction, ou en tout cas elle s'entrechoque avec la question du roman national qu'on nous vend depuis très longtemps, et qui a tendance à mettre de côté la diversité et la pluralité de la France. Et c'est ce qui est important, c'est de se rendre compte de ça, c'est-à-dire qu'en France il y a plein de cultures différentes, alors autant les célébrer.
Vous parlez de culture, il y a aussi cette question de l'autonomie de la Bretagne qui est un peu dans toutes les têtes, et d'attachement régional. Un autre dossier, celui de la Bretagne à 5 départements. Le débat sur la Bretagne à 5 départements, il traverse l'histoire contemporaine depuis plus de 80 ans, séparé administrativement en 1941. La Loire Atlantique a depuis été rattachée au Pays de la Loire, alors même que Nantes reste profondément liée à l'histoire, à la culture, à l'identité bretonne. Pour de nombreux militants, cette séparation administrative, elle incarne les dérives de la centralisation française et les limites d'un découpage imposé donc d'en haut. Pour d'autres, elle illustre des tensions entre logique économique et sentiment d'appartenance. En mai dernier, lors de l'Assemblée générale de l'Alliance libre européenne, l'ALE, donc, dont vous évoquiez, à Nantes, les partis régionalistes d'Europe ont voté une motion en faveur d'une Bretagne à 5 départements. Cette question, notamment, vous aviez déclaré à l'issue de cette question que ce soutien au peuple breton permet de relancer la machine au niveau de l'État français. Pourquoi cette réunification, elle reste autant un enjeu aussi fort 50 ans après la séparation administrative ?
Parce que c'est un enjeu démocratique. C'est un enjeu de respect, justement, et des identités, mais aussi des territoires. Effectivement, quand on regarde le territoire français découpé en départements, les départements ne correspondent pas au territoire vécu. En Bretagne, on travaille beaucoup autour des broyous, donc les pays, la notion de pays culturel, linguistique, mais aussi pourquoi pas Voinet, sont des réalités de territoires très différentes. Et donc c'est plutôt autour de ça en fait que nous on réfléchit. Et effectivement la question de la Bretagne à 5, ou de la Bretagne tout court, et donc pas de la Bretagne administrative, c'est une question justement à la fois d'identité certes, mais aussi de respect territorial. D'ailleurs cette revendication-là qu'on retrouve dans le sondage IFOP, elle est accompagnée d'autres types de revendications pour d'autres territoires. La région Occitanie telle que actuellement découpée ne correspond pas à la réalité de ce que vivent les gens en Occitanie. Quand on regarde, par exemple, ce qui se passe dans le Grand Est, c'est pareil. La revendication de l'Alsace-Moselle, elle est légitime. Donc c'est une question de légitimité des populations, des demandes démocratiques qui s'expriment socialement et sociétalement. Et c'est ça, nous, qu'on met en avant. C'est, comme je le disais pour l'ALE, l'émancipation et l'autodétermination des peuples avec ou sans État. Et ça, c'est une notion en France qui est très complexe à mettre en avant et pourtant qui est nécessaire justement pour le bien commun et en même temps pour la pluralité culturelle et territoriale.
Mais ça changerait quoi concrètement une Bretagne à 5 départements ?
Ça change beaucoup de choses d'un point de vue économique, d'un point de vue aussi des transports. Ça veut dire qu'on peut travailler sur des mobilités, sur des pôles d'attractivité par exemple, mais aussi sur la facilité entre les grandes villes, mais aussi le maillage territorial. Je prends des exemples, que ce soit l'aéroport de Nantes par exemple, par rapport à celui de Rennes qui est en perte de vitesse. Donc il y a des choses aussi à voir de ce point de vue-là. Il est extrêmement complexe à l'heure actuelle sur la zone sud d'aller jusqu'à Nantes de manière directe. Il y a toujours un arrêt à Redon. Enfin, c'est très compliqué. Donc même en termes de mobilité pour les populations et les bassins de population, ça peut être extrêmement intéressant. Et au-delà de ça, au-delà de la question culturelle, il y a cette question justement de bassin de vie, comme je disais, qui est extrêmement important. Et ça ne s'arrête pas à une frontière, qu'elle soit administrative ou culturelle. Et donc là, il y a des liens à recréer extrêmement intéressants qui sont déjà le cas, puisque la région administrative Bretagne finance déjà des projets à Nantes, culturellement par exemple, sur des associations de langue et de culture bretonne, mais pas que. Il y a des coopérations qui existent déjà, donc le but c'est de renforcer ces coopérations pour montrer que justement, c'est pas qu'une question administrative.
On entend souvent des personnes qui disent les gens ont d'autres priorités que les frontières régionales. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes-là ?
Je réponds souvent que quand on nous dit souvent que bah il faut répondre aux besoins des Français, c'est très démago de dire ça puisque les besoins des Français ils sont très différents selon les territoires. Le bien commun, ce qui reste quand il y a plus rien, quand il y a plus d'économie, quand il y a plus rien, ce qui reste, c'est la pratique culturelle et de l'identité. C'est ce qui nous relie les uns aux autres, au fond. Donc la question finalement du territoire vécu, de ce qu'on partage, c'est ça le fond. Et le fond du projet de l'UDB, c'est en partie ça. Il est bien plus large, notre projet politique, que uniquement la question de la réunification ou de l'autonomie. C'est de l'autonomie, certes politique, mais fiscale, sanitaire, sociétale. Donc on est sur un vrai projet d'émancipation globale et pour la Bretagne et pour les autres régions aussi, et même pour la France finalement, puisque on le voit dans un état plus large, fédéral. Donc c'est plutôt vers ça nous comptons, au-delà de la question juste du besoin ou de l'envie sociétale de la réunification.
Et justement, vous qui êtes proche du terrain, est-ce que vous avez le sentiment que à la fois les associations, la société civile, le monde de la culture, est-ce que ils ont vraiment pris à bras-le-corps ce sujet, ce dossier notamment de la région, de ce projet à 5 départements ?
Alors oui et non, ça dépend de où on parle et de qui on parle, parce qu'il y a plein d'associations qui, oui, ont conscience de ça. Dans la population générale, ce qu'on remarque, en tout cas en Bretagne, beaucoup, en tout cas le sondage IFOP le montrait, c'est qu'il y a un intérêt, une appétence pour que la langue continue, ou les langues continuent à vivre, que la culture soit vivante, que les musées aussi expriment l'histoire de la Bretagne. Et c'est là un enjeu majeur. C'est-à-dire que l'histoire de la Bretagne n'est pas enseignée. On peut la trouver dans les musées parfois, mais c'est très restreint. Il y a un vrai enjeu stratégique aussi d'acculturation à cette histoire-là, ne serait-ce que pour savoir d'où on vient et pourquoi, et comment s'est constituée la région en tant que telle. Donc ça, c'est un enjeu majeur, je pense, à la fois patrimonial et historique, au moins de mémoire. Et donc ça, ce travail de mémoire-là, il est parcellaire, et donc il y a un besoin, je pense, d'une vraie stratégie, à l'échelle régionale aussi, de cette question-là, qui me paraît justement importante pour sensibiliser les gens, justement, à cette notion de territoire.
Il y a aussi d'autres questions que vous évoquez. Vous évoquez souvent la relation complexe entre Paris et les régions. On la retrouve aussi dans un autre combat que vous menez depuis longtemps, celui du Bugalet Braise, le naufrage donc du Bugalet Braise qui s'est déroulé donc le 15 janvier 2024, qui reste quand même l'un des plus, je dirais même les plus dramatiques, les plus grands drames maritimes récents en Bretagne. 5 marins bretons ont donc disparu au large de la Cornouaille britannique. Très vite, les familles et les nombreux observateurs évoquent la possibilité d'un accident lié à des manœuvres militaires sous-marines en pleine période d'exercice de l'OTAN. Depuis près de 20 ans, la quête de vérité se heurte au mur du secret défense. L'UDB s'est engagé justement dans la quête de vérité autour de ce naufrage du Bugalet Braise survenu en 2004, je le disais. En avril 2025, vous avez adressé une lettre ouverte au président des États-Unis, Donald Trump, pour demander la déclassification de documents militaires américains. Et en juin, vous avez été reçu par François Bayrou, du moins par un de ses conseillers. Vous allez nous en dévoiler quelques coulisses dans un instant. Mais pourquoi ce combat vous tient-il autant à cœur 20 ans, plus de 20 ans après ce drame ?
Ça fait partie des fondements de l'UDB, de l'ADN, à savoir, je le disais, la question de l'émancipation et de la reconnaissance. Là, on touche à quelque chose d'important qui est le secret d'État. Et là aussi, sur la question de la transparence démocratique, c'est extrêmement important pour un parti comme l'UDB. Et c'est pour ça qu'on a relancé la machine, qui est aussi liée à l'actualité, hein, puisqu'il y avait la série d'Arte qui sortait à ce moment-là. Et donc on a toujours travaillé en lien avec l'association SOS Bugalet Braise, justement pour être sûr que notre voie politique soit bien en concordance avec la volonté de l'association et donc de ne pas prendre le pas sur leur combat. Et donc, on a travaillé main dans la main avec Dominique Launay justement sur ces questions-là. Il a été présent à l'ALE, justement à l'AG à Nantes, pour pouvoir rencontrer des députés européens comme Anna Miranda qui travaille justement à la commission pêche et qui donc, pour la Galice, a un poids dans les affaires européennes. Donc, oui, il y a la lettre à Donald Trump, il y a celle qu'on a envoyée effectivement aussi au Premier ministre. Effectivement, on a été reçu par son conseiller justice donc en juin dernier à Matignon. Ça a permis de rebalayer le dossier et de mettre en avant quand même quelque chose d'important qui est que on ne peut pas lever comme ça un secret défense, certes, parce que une fois que la décision de justice est posée, ce qui est le cas, on ne peut plus ouvrir le dossier s'il n'y a pas de fait nouveau majeur. Ceci dit, ça a déjà été fait que l'État passe outre ça et le fasse quand même. Donc il y a déjà un précédent où l'État pourrait se dire « oui, je lève le secret défense ». Donc nous, ce qu'on demande, c'est un acte politique, pas un acte juridique ou légal. On demande un acte politique, c'est-à-dire « oui, là, il y a un besoin de vérité nécessaire, et donc on admet la levée de ce secret défense ». La difficulté étant qu'effectivement, on ne sait pas qui est responsable de quoi, et que ça peut être n'importe quel pays européen qui était dans les manœuvres à ce moment-là. Et donc forcément, ça nous dépasse. Mais ça ne veut pas dire que la transparence ne doit pas être nécessaire, notamment si on veut que la population comprenne. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, mais il faut les assumer.
Donc vous avez évoqué notamment cet échange que vous avez eu avec François Bayrou, ancien Premier ministre. Et pour ce qui est de la lettre que vous avez adressée en avril à Donald Trump, quel retour vous avez eu de cet échange ?
Pour le moment, on n'en a pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne relancera pas via les journalistes aussi aux États-Unis sur cette question-là, puisqu'on ne sait pas trop ce qui reste effectivement dans les dossiers concernant le Bugalet Braise. On a aussi d'autres pistes possibles avec d'autres partis politiques amis outre-Manche, qui nous permettraient aussi, justement, en Cornouaille britannique, d'aller un peu plus loin de ce côté-là. Donc on a d'autres cartes à jouer, qu'on n'a pas encore jouées, mais qui sont prêtes.
Est-ce que ce combat, au-delà évidemment du drame humain, est-ce qu'il ne symbolise pas en quelque sorte une manière différente de faire de la politique ? Vous l'avez dit, peut-être plus transparente, plus horizontale ?
C'est en tout cas notre projet politique de base depuis plus de 60 ans. C'est ce qu'on demande en tant que parti autonomiste, c'est-à-dire que la transparence, pour le fait démocratique, il est extrêmement important pour nous. Ça veut dire aussi de rebattre les cartes à plein d'échelons, que ce soit justement au niveau national et local, sur le transfert de compétences, mais avec les transferts de budget qui vont avec, évidemment, sur la clarification des échelons administratifs, sur la meilleure prise en considération aussi localement des dossiers en Bretagne. Les dossiers algues vertes, par exemple, agriculture, sont des dossiers extrêmement importants qu'on ne retrouve pas ailleurs, mais sur des dossiers culturels aussi. Quand on voit avec ce qui se passe au Louvre par ailleurs à l'heure actuelle, oui, c'est grave, oui, c'est important. Mais ce que ça pose aussi comme question, c'est quels sont les budgets alloués dans les territoires ? Au développement culturel, à la sauvegarde du patrimoine. Je prends un exemple tout simple. Le 9 octobre dernier, à Brest, il y a eu une vente aux enchères de près de 130 œuvres de Jeanne Malivelle. Moi, ma question, c'est à ce moment-là, qui à racheter, si, est-ce que les musées se sont positionnés? Normalement, oui. Mais est-ce qu'on a une stratégie régionale sur le patrimoine, sur la préservation de ces œuvres d'art contemporain, même si elles ont 100 ans, qui sont majeures dans l'évolution de la pratique artistique en Bretagne? Je trouverais extrêmement dommage que, sur ce type de vente, tout repasse dans le privé et soit, du coup, loin de la population et qu'on ne puisse pas les montrer. Donc là, on a aussi des enjeux extrêmement importants, au-delà du Louvre, localement, sur des œuvres, sur une politique patrimoniale plus assumée aussi, pour mettre en avant nos savoir-faire.
Yeah, on a bien compris que vous êtes exigeante sur cette question de transparence et qu'elle est importante pour vous. On la retrouve aussi dans votre manière d'aborder la politique et aussi, je dirais même, les alliances à gauche, puisque historiquement, l'Union démocratique bretonne, on rappelle que vous en êtes la porte-parole, c'est un parti qui se veut régionaliste. Ces dernières années, vous avez plaidé pour l'Union de la gauche, notamment dans la 6e circonscription du Morbihan à Hennebon, d'où vous venez. Vous avez participé aux discussions autour du Front populaire, nouveau Front populaire, et récemment à Nantes, l'Union démocratique bretonne a rejoint la liste d'union de Johanna Roland, la maire sortante pour les municipales de 2026. Dans cette période de crise politique, comment est-ce qu'on convainc que le régionalisme n'est pas un repli, mais une ouverture ?
C'est extrêmement intéressant comme question, et c'est ce que j'ai tout à l'heure sur l'initiative de Sébastien Lecornu concernant la demande de décentralisation. Ce qui s'est fait à la région Bretagne il y a quelques semaines, c'est un débat sur cette question-là, puisqu'il existe un groupe transpartisan qui travaille sur la question de l'autonomie à la région Bretagne. Et c'est évident, maintenant, on se rend bien compte qu'à force de tout centraliser, en fait, on s'éloigne des territoires. Et c'est aussi pour ça qu'on met beaucoup en avant notre façon de voir les choses autonomiste et fédéraliste. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien aussi que dans les territoires isolés, qui se sentent isolés, on pense au centre-Bretagne, mais pas que, les questions centrales de centralité ou de centralisme, en fait, fait que les gens se sentent abandonnés. Or, nous, ce qu'on demande, c'est justement la prise en compte de toutes les spécificités territoriales et donc de tous les besoins. On voit bien avec le problème à Guingamp de la maternité ou du maintien de l'hôpital, il y a des choses extrêmement graves qui se jouent et l'ARS est certes...
L'Agence régionale de santé.
Voilà, effectivement, travaille sur ces questions-là, mais ce n'est pas un outil régional, c'est un outil national. Et là aussi, il y a une dichotomie entre ce qu'on peut apporter du niveau national et la réalité locale. Donc oui, c'est un sujet que nous, on porte fortement, cette question de l'autonomie et justement du fédéralisme, et qu'on continue à porter dans ces différentes municipalités où on s'engage aussi à gauche. Donc oui, notre travail, il n'est pas fini, loin de là, mais on assume bien cette question-là de plus en plus aussi pour montrer qu'on a tout essayé. C'est bon, le centralisme, c'est passé. L'extrême droite, on n'en veut pas. Donc la solution, en fait, elle vient du localisme et donc de notre capacité, nous, en tant que parti régionaliste et autonomiste, à mettre en avant ces questions-là.
Vous appelez à ne pas, vous dites souvent, à ne pas se marcher sur les pieds entre partis de gauche. Est-ce que l'union de la gauche est-elle vraiment possible ?
Je pense qu'elle l'est et qu'il faut mettre les égos de côté pour ça. Donc, soit au niveau national ou au niveau local aussi. Elle peut l'être, mais il faut écouter tous les partenaires. C'était assez probant au niveau du NFP, par exemple, où effectivement, on a les partis dominants qui se sont répartis les circonscriptions. Et pourtant, il y a un cinquième pilier qui s'est créé avec tous les petits partis ou mouvements qui ont signé l'appel et qui ont commencé aussi à se structurer, à avoir des visios entre eux pour essayer de comprendre comment on peut accompagner les partis, mais aussi montrer une réelle différence et une manière de voir le terrain aussi plus qu'au niveau national. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Oui, l'union de la gauche, elle est possible, mais il faut bien écouter tout le monde, notamment ceux qui ont une vision locale de la politique, parce que c'est plus en adéquation justement avec ce qui se passe sur le terrain et c'est important pour alimenter justement l'union à gauche.
Je voudrais qu'on revienne sur les propositions, les mesures concrètes que vous avez proposées, notamment à Nantes, sur le logement, le vélo, les écoles bilingues. Vous avez parlé notamment de la défense de la langue bretonne. Est-ce qu'elle fait partie, selon vous, la défense de la langue bretonne d'un projet social global ?
Alors, c'est pas que la défense de la langue bretonne, c'est la défense des diversités culturelles au sens très large. Moi, je le mets toujours dans un contexte beaucoup plus large, puisque quand on parle d'ouverture sur le monde, les langues sont des vecteurs d'ouverture, que ce soit la langue galaise, que ce soit la langue bretonne, que ce soit d'autres types de langues aussi. L'idée, c'est bien de s'inscrire dans un concert linguistique bien plus large que uniquement la question de la langue bretonne. Donc oui, c'est extrêmement important parce que effectivement, la restitution du rapport sénatorial sur l'impact de la loi Molac est tout récent, montre bien que sans volonté politique claire de tous les échelons administratifs, on ne pourra pas y arriver. Donc oui, la question de la langue, elle est extrêmement importante, non pas juste comme langue, mais comme espace d'ouverture sur le monde, puisqu'on ne pense pas en breton comme on pense en français ou comme on pense en anglais ou en allemand.
J'aimerais qu'on revienne très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, sur la question des municipales qui vont se tenir là à la mi-mars 2026. Quelle est la position de l'Union démocratique bretonne actuellement ? Est-ce qu'on peut envisager, comme pour Nantes, une alliance derrière tous les partis de gauche, l'ensemble de l'Union de la gauche ?
Alors, ce qui se passe à l'UNDB, c'est qu'on est très démocratique, donc on travaille en subsidiarité, c'est-à-dire que ce sont nos sections locales qui décident de leurs alliances. Et après, nous, on considère, après, dans les instances plus hautes du parti, si ça correspond. Mais à Brest, c'est la section de Brest qui gère. À Lorient, c'est la section de Lorient. Et donc à Nantes, c'est la Fédération Loire-Atlantique qui gère. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est possible, mais c'est surtout lié à la fois aux historiques politiques locaux et aux opportunités politiques de mettre en avant nos sujets. On a un package minimal de revendications, justement, que ce soit le logement, que ce soit langue, que ce soit aussi santé, ce qui est une de nos préoccupations aussi. Donc on a comme ça des revendications claires qu'on veut mettre en avant à chaque fois qu'on rentre en négociation sur des municipales, voire être tête de liste, parce qu'on a quelques maires aussi, et des candidats de tête de liste sur certaines communes que nous on met en avant pour ces questions, pour ces raisons-là.
Vous aviez évoqué notamment que la dissolution de 2024, elle avait aussi impacté concrètement le budget et les finances du parti. Est-ce que vous pensez là, actuellement, que votre structure actuelle, elle est suffisante pour faire face justement à cette campagne électorale ?
Oui, on a justement travaillé en ce sens-là avec les instances du parti pour être sûr de pouvoir tenir, et on tiendra. Donc oui, on est prêt, même financièrement, à gérer toutes les campagnes qui vont se profiler, que ce soit les municipales ou que ce soit éventuellement une dissolution.
On a bien compris que vous étiez donc prête pour les municipales donc, qui vont se tenir à la mi-mars en 2026. Et on a bien compris votre engagement et votre dévouement ce matin au micro de Bretagne 5, Tiphaine Siret. Merci à vous d'avoir été notre invitée sur Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union démocratique bretonne.
Merci.
Bonne journée sur Bretagne 5. Tout de suite, la suite de la matinale.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.